This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. À 37 ans, PH prend toute la mesure de la chance qu'il a eue de faire son coming out dans une famille aimante et tolérante. Ce Nantais, revenu aux sources depuis, il y a peu, est venu à mon micro pour parler de son intimité qui a beaucoup évolué ces dernières années. En premier lieu, il souhaitait parler d'un sujet encore non abordé ici, le phimosis. Son homosexualité n'a pas été évidente, il se remémore son cheminement long, puis raconte sa première relation de couple à 20 ans avec un homme de 25 ans de plus que lui. Jalonné d'autres petits soucis médicaux, PH n'a aucun tabou à raconter les désagréments de sa sexualité. Une fois célibataire, PH découvre quelques pratiques BDSM qu'il va raconter avec humour et légèreté. Je vous invite à regarder les trigger warnings. Pendant cette période, il s'interroge sur le rôle de l'actif passif dans la sexualité gay. Des histoires souvent compliquées vont lui permettre de comprendre son mécanisme et les schémas qu'il répète. Aujourd'hui amoureux et en couple, il se souhaite plus de lâcher prise dans son intimité, que son corps et son esprit en pleine déconstruction se synchronisent afin de pouvoir intégrer plus de liberté dans sa sexualité quotidienne. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça va, PH ?
Oui, ça va.
PH, tu es en face de moi sur mon canapé rose, qui n'est pas rose Barbie.
Non, il n'est pas rose Barbie, je suis déçu.
Il est rose poudré, rose pâle, quoi.
Non, mais c'est bien, ça fait boudoir un peu.
Je le reconnais.
Tu vois ?
PH, tu m'as dit que tu connais bien le podcast, puisque tu as écouté tous les épisodes, donc je te remercie.
Oui. J'avoue.
C'est top. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ou l'érotisme ?
Alors, premier souvenir, je suis comme beaucoup de personnes qui sont passées à ce micro, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Et le souvenir qui m'est remonté, c'est un été, je dois avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça, 8 ans, je ne sais plus. Et en fait, c'est des jeux que j'ai avec des cousins.
Ok.
Donc des jeux, on joue un peu au docteur, etc. Et voilà, si on est resté là, il n'y avait rien de vraiment sexuel. C'était même pas vraiment érotique. Je pense que c'était plus une...
Découverte du corps, quoi.
Même pas, parce qu'en fait, c'était, je pense, un espèce de mimétisme avec des cousins un petit peu plus âgés. Et il n'y a pas eu grand-chose, mais ça en est resté là.
Et pourquoi, pour toi, c'est un souvenir prégnant sur la sexualité ou l'érotisme ? Parce que ça t'a fait quelque chose ?
Non, ça m'a rien fait sur le moment. Je pense que c'est la première fois où on devait m'amener vers ces sujets-là.
D'accord.
Beaucoup plus tard, parents qui avaient Canal+, j'ai louvoyé en attendant que mes parents dorment le samedi soir pour regarder les films porno de Canal. Ça commence, j'avais à peu près 13 ans à ce moment-là.
Oui, donc puberté.
C'est ça.
On parlait facilement de sexualité chez toi ?
Pas vraiment, mais alors en fait, je suis dans une famille où on a beaucoup de blagues grivoises, donc on n'en parle pas de manière sérieuse, mais j'ai quand même une maman adorable qui, quand je suis arrivé à l'âge des premières branlettes, etc., avait quand même acheté le tube de vaseline pour me dire « Tiens, mon chéri, comme ça, tu pourras...
D'accord.
Enfin, tu vois, pas te faire de mal, etc., etc.
Bien amené.
Mon papa est absent de ma vie jusqu'à mes 25 ans parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc avec qui je ne discute pas. C'est ma maman qui gère tous ces sujets-là. Charge mentale de la femme, on est en plein dedans. Je sais que ma sœur aînée, par exemple, elle lui a offert un bouquin, je crois que c'est l'herbe rouge, ou je sais plus trop
l'herbe
quoi.
L'herbe bleue.
L'herbe bleue.
Bien sûr.
Donc je sais qu'elle a abordé les sujets, je pense, plus facilement parce que c'était une femme et qu'elle avait une fille. Avec moi, ça juste c'était bon, tiens mon chéri, t'as un tube de vaseline, tu peux te branler, comme ça ce sera parfait.
Mais bon, en même temps.
Et c'est resté là, et après c'était, bon bah protège-toi quand il faut, fais attention, etc., etc. On parlait par contre pas de sexualité en tant que telle, plus quand j'ai eu 20 ans. C'est-à-dire, quand ils ont découvert que j'étais homosexuel et qu'il a fallu aborder le sujet, bon bah une fois qu'on avait passé la crise de quand ils ont appris que j'étais homosexuel, après coup, en fait, on est venu en parler petit à petit. Bah, j'ai une maman, en fait, qui a eu peur, qui me dit « protège-toi, fais attention ». En fait, elle avait toutes les images de la gay pride, des gays qui se font taper, qui sont efféminés, qui sont machin.
Elle a eu peur pour toi.
Ouais, et au bout de plusieurs années, j'ai fini par lui dire, mais en fait, maintenant, je le dirais plus comme ça, mais à l'époque, j'étais éduqué comme un homme, en fait, donc je comprenais le souci de l'image, de ce qu'elle voyait, je comprenais pas qu'elle me le renvoie, parce que dans ma tête c'était mais je vais pas finir efféminé avec des plumes à me balader sur un char à la Gay Pride.
Et pourquoi pas?
Maintenant je le ferai. Ouais, ça y est, j'ai 37 ans, je me fous un peu de ce que les gens pensent, je m'assume complètement et aujourd'hui, ouais, je le ferai.
Mais tu as raison, c'est vrai que les représentations que les gens ont, notamment de province, mais pas forcément, hein, aussi dans les grandes villes, quand on est amené à fréquenter des gens qui sont homosexuels, on a tout de suite la crainte, effectivement, de ce que tu dis. Et je pense que pour une maman qui a l'air très en phase avec ses enfants, de les protéger, de les aimer, d'être une maman bienveillante, hashtag le mot de 2021, elle a peut-être pas peur que tu changes, elle a peut-être peur que tes fréquentations autour de toi puissent peut-être, tu vois, créer des situations un peu de tension.
Il y a de ça.
Il faut le comprendre aussi en tant que parent.
Ouais, je l'ai compris plus tard, bah, en fait,
normal,
en tant qu'adulte.
C'est normal.
Quand j'ai discuté avec elle en tant qu'adulte, après, j'ai compris qu'elle avait des craintes.
Tu peux pas comprendre à 18 ans, c'est
non,
évident.
Non, non, bah, à 20 ans, je le comprenais pas. Et en plus, quand je lui ai annoncé un peu de but en blanc, parce que je pense qu'elle s'y attendait pas exactement. Toute mon enfance, ça a été ma mère qui a géré les enfants. Mon papa a tout le temps énormément travaillé, donc c'est pas lui qui gérait ça.
Vous êtes trois?
On est trois. Je suis le dernier. Seul garçon. La, pour la parenthèse, en plus, c'est un peu compliqué parce que je suis le dernier, je suis un enfant non désiré, je suis né prématuré, avec des grosses complications au niveau de la naissance, etc. Donc je pense que j'ai aussi une maman qui m'a ultra protégé, choyé, etc. Et en fait, j'ai un papa qui, par contre, lui était présent en fond d'écran dans ma vie, en fait. Quand j'étais tout petit, ma maman me racontait que je pleurais quand il voulait s'occuper de moi ou autre. Donc, en fait, c'était très compliqué. Et quand je leur ai annoncé que j'étais homosexuel, ma mère m'a sorti le discours de « Non, mais t'inquiète pas, j'accepte ». Ça, ça a duré une semaine. Après, il y a eu 6 mois de guerre froide où on se parlait pas, on se croisait dans la maison, on s'évitait. Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais un compagnon et c'est mon papa qui m'emmenait à la gare pour monter à Paris. Et à chaque fois, c'est mon papa qui récupérait toute la parole, en fait. Mais qui ne disait jamais rien. Mais qui, par contre, écoutait beaucoup. Et je me souviens qu'un jour, il m'emmenait à la gare et je lui dis, moi, tu sais, papa, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas homosexuel, peut-être que ce sera autre chose. Et je revois son regard dans le rétroviseur, de me regarder, il me fait, non, mais en fait, j'ai compris, je sais que c'est ça, ce sera jamais autre chose.
Et ça t'a fait du bien de l'entendre?
Quand j'y ai repensé, oui. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, en fait, il a eu du mal, je pense. Parce que dans son éducation, c'était plus compliqué que pour ma maman. Mais pour le coup, c'est lui qui a le plus accepté, en fait.
Mais il faut laisser le temps aussi aux parents.
Oui, aujourd'hui, je prendrais peut-être un peu plus de pincettes pour le dire.
Pour revenir un peu plus en amont, donc tu fais ton coming out à 20 ans. Comment se passe l'entrée dans la puberté? Est-ce que c'est pour toi c'était une évidence d'être homosexuel? Comment ça s'est passé?
Non, alors pas du tout.
Parce qu'il y a des hommes à ce micro, je sais pas si tu les as entendus, qui le disaient, hein, que c'était depuis qu'ils étaient enfants. À 5-6 ans, c'était les garçons, quoi.
Alors non, moi pas du tout. En fait, je me le disais pas et je ne le savais pas. Mais il n'empêche que j'avais une maman et une sœur qui avaient le catalogue La Redoute et bizarrement, je m'arrêtais à la page sous-vêtements masculins de La Redoute pendant très longtemps. Mais par contre, toute mon adolescence, je perçois pas du tout ça. En fait, je traverse une adolescence, enfin une enfance et une adolescence sans sexualité, je dirais, parce qu'en fait, j'y pense pas. À partir de 13 ans, je sais que les hormones commencent à me travailler, donc en fait, bah, le film du samedi soir de Canal+ était très intéressant.
Donc c'est là où tu commences à te masturber?
Oui.
Ok.
Mais avec complications, parce qu'en plus, alors j'ai découvert ça un peu après, mais je me masturbais de manière, entre guillemets, pas normale, parce que j'avais un phimosis quand j'étais petit.
Alors, qu'est-ce que le phimosis, s'il te plaît?
Alors, le phimosis, c'est quand on est un garçon, non. Normalement, si on a une hygiène intime quand on est petit garçon et adolescent normal, on décalote régulièrement sa verge pour assouplir la peau. Et souvent, alors ça peut être biologique, ça peut être plein mal de choses, un phimosis, en fait, c'est au bout de la verge, ce qu'on appelle le fourreau, en fait, et ben la peau est tellement serrée qu'on ne peut pas décaloter la verge complètement.
Ça, c'est quand on n'est pas circoncis. Hein.
Ça, c'est quand on n'est pas circoncis. Et pour le coup, eh ben, ça génère des problèmes parce que dès qu'on arrive à la puberté et qu'on a les hormones qui travaillent et qu'on devient adulte physiologiquement et qu'on a des érections, je ne vous explique pas la douleur.
Grosso modo, c'est le col roulé et un peu serré, quoi.
Eh ben, en fait, moi, dans mon cas, c'était je forçais le passage pour que ça se fasse. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas décaloter.
Dans ces cas-là, il faut faire une petite opération. Voilà.
Et moi, ça générait que ça a duré pas mal de temps. Ça me générait des micro-fissures quand je forçais. Ouais. Parce que y a un moment, il fallait quand même bien que je me branle et que ça arrive. Et ça a fait qu'à 20 ans, je me suis fait circoncire. Juste partiel pour ouvrir en fait, le phimosis. Pour expliquer, c'est-à-dire que la verge, si on prend la verge vue d'au-dessus, dans mon cas, on a coupé de manière verticale en fait, par rapport au phimosis qui est horizontal. Qui ferme en fait le fourreau, on a coupé à la verticale, on a juste ouvert la peau et après on a fait des points et voilà, c'est parti.
On a un petit peu ouvert le col roulé, quoi.
C'est un peu ça. Et pour le coup, en fait, c'est-à-dire que ma vie sexuelle avant, il y a juste de la branlette et des films porno.
Alors juste, je fais juste un petit point sur le phimosis pour avoir dans mon entourage des mamans de petits garçons. Parfois, les pédiatres ne te disent pas qu'il faut décaloter l'enfant. Ouais. Et on va laisser l'enfant jusqu'à 4-5 ans sans le décaloter. Et ça crée justement des adhérences, quoi.
Moi, je sais que dans mon cas, c'était... Alors, je pense qu'il y a eu une fainéantise de ma part de ne pas le faire. Parce que ma maman était au courant, elle m'avait expliqué. Puis après, bon, en fait, c'est... Je sais pas, c'est passé dans ses rentrant par une oreille, sorti par l'autre.
Si déjà c'était pas très agréable, je peux comprendre aussi quand t'es gamin que t'as pas forcément envie de le faire tous les jours, quoi.
Ouais, après j'ai pas de souvenir quand j'étais enfant. Quand j'étais ado, bah en fait ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est quand je suis arrivé à la vingtaine où là je me suis dit, ok, en fait là ça va être un peu compliqué. Ma vie sexuelle n'a commencé qu'après en fait l'opération.
D'accord.
Avant j'ai rien, c'est-à-dire qu'avant.
La masturbation, c'est pas toujours agréable.
Alors, la masturbation n'est pas dérangeante avant. Parfois, je force un peu, donc j'ai quelques douleurs, mais en deux jours, ça cicatrise et ça passe.
Et la vaseline.
Et la vaseline, ça aide aussi. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle qui s'est construite, où là, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça va devenir dérangeant, donc on va faire quelque chose.
Alors, quand t'es ado, c'est du porno, donc c'est le film du samedi soir.
C'est du porno hétéro, pour le coup.
Hétéronormé à la papa. Hein,
ah, mais, alors, il y a les deux. Il y a le porno de Canal+, donc le vrai porno de Canal+, encrypté, mais mes parents ayant le décodeur, j'avais la chance de voir. Mais alors, le vrai porno avec pas de préservatif à l'époque, on en parle absolument pas.
C'est vrai, ouais.
On est dans les années 90, donc on oublie. Et en fait, c'est quand j'arrive au lycée, où par mimétisme, je pense aujourd'hui, bah je finis par voir des potes qui ont des petites copines, donc je finis par vouloir des petites copines, enfin j'ai voulu en avoir trois au total. Cas de la première, ce qui était très drôle, c'est que je ne savais pas comment réussir à lui dire que je voulais sortir avec elle. Et un matin, je suis dans le bus, je vais au lycée et j'entends des nanas en fait parler de « Ah, oh, il m'a demandé si je pouvais sortir avec lui, etc. etc. » Et dans ma tête, c'est ça qu'il faut que je lui dise. Je la croise avant qu'elle rentre dans un cours et je lui dis, on avait une copine en commun qui savait ce qu'il en était. Et puis la copine en commun, deux, trois jours après, me fait « Non, mais oublie en fait, il ne se passera jamais rien. » Bon.
Mon premier fail.
Ok, c'est pas grave. La deuxième, je suis au lycée, je redouble ma première. Nana donc qui avait un an de moins. Je sais plus comment on navigue l'un autour de l'autre. Enfin bref, spoiler alert, début des portables. Je lui ai demandé de sortir avec moi par SMS à l'époque.
Oh, sachant qu'à l'époque, il fallait bien compter son nombre
de caractères.
De caractères. Donc, tu ne pouvais pas dépasser comme un tweet. Hein.
Voilà. Pareil, gros fail aussi. Parce que, bah, et dans le cas de la troisième, en fait, on n'a jamais rien tenté, mais ça a été très...
Beaucoup d'ambiguïté entre vous.
Ouais, beaucoup d'ambiguïté, mais aussi c'est quelqu'un qui me plaisait, avec qui je m'entendais bien, etc. Donc ça ne s'est pas fait pour X raisons. Et il s'avère quand même qu'en parallèle de ça, mon meilleur ami que je connais depuis 20 ans, lui était déclaré homosexuel, je le savais, il me l'avait dit. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, je crois qu'un an après, il me dit « Bon bah voilà, je suis homosexuel, j'aime les hommes et tout, machin. »
Parce que j'allais te poser la question si, effectivement, dans ton entourage, t'avais des référents homosexuels qui auraient pu te donner un indicateur.
Bah là, pour le coup, j'en avais un. C'est-à-dire que j'avais des potes mecs, dont un sur qui je fantasmais pas possible, dès que je le voyais à la salle de sport... Je bavais comme pas possible. Je commençais quand même à comprendre qu'il y avait un truc, mais je me le disais pas encore. Et à côté de ça, donc j'avais un pote qui est devenu mon meilleur ami depuis, qui lui un jour me dit
hyper ouvertement.
Qui me dit un jour, voilà, je suis homosexuel. Moi, quand je vois une femme, c'est esthétique, etc., etc. Et je me souviens me voir lui répondre, bah en fait pour moi c'est pareil pour les hommes, dire que j'aime les femmes, mais quand je vois un homme c'est esthétique, j'aime bien le corps masculin. Ça reste là. Au fur et à mesure de l'avancement de la vie, alors pour X, je sais pas comment, en tout cas j'ai mis le pied dedans. J'ai quand même fini par comprendre à un moment que tu regardes les hommes quand même fortement. Enfin, tu cherches du porno, mais tu regardes quand même plus l'homme que la femme quand t'en mates. Début d'internet en plus, parce que alors j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur chez papa-maman, dans ma chambre à l'époque.
Il y a beaucoup de choses sympas chez papa-maman.
Hein. Oui, quand même, j'ai énormément de chance.
Il y a le canal, il y a vaseline, il y a ordinateur dans la chambre.
J'ai énormément de chance. Et je recherche des images d'hommes de plus en plus. Mmh. Et au bout d'un moment, je finis par me dire, bon bah c'est ça en fait.
T'en parles à ton meilleur pote ?
Ah bah alors ça, bonne question. C'est la personne à qui j'ai eu le plus de mal à l'annoncer.
Trop marrant.
Mais oui, c'est-à-dire que, donc à l'époque, déjà début d'internet, donc je tombe sur des messageries, me demande plus lesquelles. J'avais fini par, enfin je finissais après par discuter avec les mecs par Hotmail, etc. Enfin on est dans les...
Ok, boomer.
Oui, c'est un peu ça. Comment je tombe dans le monde homo, j'en sais rien. Comment je trouve les sites sur lesquels je vais, j'en sais rien.
Bon, après, j'imagine que c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain. C'est...
Non.
Tous les jours un c'est... peu plus, et puis au bout d'un moment, il y a un lien qui fait que, bien sûr.
Et puis je faisais du réseau téléphonique aussi. Quand même, de 13 ans jusqu'à la majorité, en gros. Je calcule pas trop le truc. Mm-hmm. Ça grandit, mais moi, je le vois pas du tout. Ça finit un moment par apparaître. Je finis par le comprendre. Mon, entre guillemets, premier petit copain était un mec avec qui je discutais sur un réseau téléphonique. Ça a dû durer 3 semaines. Et quand je me rappelle aujourd'hui, au bout de 3 semaines, quand je lui dis « Non, non, mais ça va s'arrêter là parce qu'il ne se passera jamais rien. » Le mec me fait une scène « Mais comment tu peux me dire ça ? Mais c'est pas possible. Ah, et moi, j'étais attaché. » Je fais « Mais on va se détendre, en fait. On ne s'est jamais vu. On s'est juste parlé 3 semaines. »
Vous parlez juste par téléphone.
Ouais, même pas message, en fait. On va parler SMS calculé, donc.
Ouais.
Mais il ne se passait rien, en fait. Je finis par rencontrer d'autres hommes, enfin, discuter avec d'autres mecs. Entre-temps, je ne sais plus à quel moment, en tout cas, si je sais en fait, c'est que je vais avoir 19 ans. Je trouve un premier mec. Alors j'étais à Nantes à l'époque, lui il habitait en Vendée. Une fois de plus, papa et maman sont très gentils, j'avais une voiture. Et donc je finis par trouver ce mec, qui à l'époque, c'est après une récurrence que j'ai eue dans d'autres histoires, était marié mais en instance de divorce, un truc un peu nébuleux, enfin bref.
Le fameux hétéro-curieux.
Voilà, je finis par le voir, en fait je le vois une première fois. Truc un peu romantique, au bord de la mer, on est au mois de mars et tout, enfin bref. Et en fait on se voit une fois, la deuxième fois que je dois le voir, je pars de chez mes parents.
Mais vous vous embrassez la première fois ?
La première fois on s'embrasse simplement, il se passe rien de bien
mais là,
sexuel.
Mais quand tu l'embrasses, c'est la première fois que tu embrasses quelqu'un,
oui.
Que tu embrasses un homme,
oui.
Qu'est-ce que tu ressens ? Tu t'en rappelles ? Est-ce que tu es confirmé dans ton...
Je crois qu'il y a quelque chose en moi qui me dit « Cool, je le fais » dans le sens « J'embrasse quelqu'un ». Même pas un homme, en fait. Forcément, c'est juste le fait que « Ah, ça y est, en fait, je suis... » Pour moi, en fait, j'ai commencé ma vie sexuelle tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à 19-20 ans.
Mmh. Il avait quel âge, du coup, s'il t'était...
Lui, il avait... Alors, les deux avaient... Mon âge, 37 ans. Il devait avoir 33 ans à l'époque.
Mais
lui.
Genre, ouais, c'est ça, à peu près l'âge de...
À peu près l'âge que j'ai aujourd'hui.
Oh, tu devrais rire aujourd'hui embrasser un mec de 19 ans ?
Non.
Bonne réponse.
Non, faut pas. C'est pas une bonne chose. On s'embrasse une première fois, et quelque chose comme la semaine d'après, on doit se revoir. Je pars de chez mes parents, puis il m'appelle en cours de route, il me dit non, en fait, aujourd'hui c'est pas possible, j'ai un empêchement, etc., ce sera demain. Puis de nouveau pareil, c'est pas possible, donc demi-tour, je rentre chez papa-maman. Et c'est là où je l'annonce à mes parents. C'est-à-dire que ma mère, voyant le manège au bout de 2 jours, elle me dit « Bon, qu'est-ce qui se passe en fait ?» Je l'annonce à mes parents, avec le cataclysme que ça a été pour ma maman à l'époque. Et ce qui est le plus drôle en fait, c'est que donc, avec ma maman, on finit par rentrer en gare froide après.
C'est ce que tu disais pendant 6 mois, ça a
voilà.
été compliqué.
Mais ce qui est drôle par contre, c'est que j'annonce à alors, toute la famille du côté de ma maman, pas de mon papa. Mon papa, pendant très longtemps, ils ne l'ont pas su. Ils vont l'apprendre bien des années après d'une autre manière. Mais du côté de ma maman, ils vont le savoir. Et en fait, ma grand-mère, quand je lui annonce au téléphone, elle me dit « Bah oui, bah je le savais. »
Ok.
Moi, j'étais au téléphone, je fais « Mamie, comment ça, tu le sais ?» Enfin, ok. Le souvenir qui me reste le plus drôle, c'est une sœur de ma maman. Quelques mois plus tard, mes parents, une maison au bord de la mer, on se retrouve là-bas en famille, etc. On est au petit déjeuner. Elle était au courant, on en parlait. Et l'anecdote qui est restée, c'est... on parle de l'homosexualité, elle me dit « Mais t'as jamais embrassé de fille ? T'as jamais été amoureux ?» Je fais « Bah toi, t'as déjà embrassé une fille ?» Elle fait « Bah non, ça m'intéresse pas. » Je fais « Bah moi, c'est pareil, ça m'intéresse pas. » Et là, elle s'arrête, elle me fait « Attends, mais c'est pas con ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je me forcerais à... J'ai pas envie, en fait. »
Essayer, ouais, ouais.
Voilà, en fait, à partir du moment où j'avais embrassé ce premier garçon, je savais que c'était ça, que c'était pas autre chose.
C'était confirmé.
Oui. Ben, vous me mettez une femme nue, un homme nu, une femme nue, je trouvais ça. Et c'était, par contre, tu mets un homme nu, enfin, aujourd'hui, mon compagnon, on le met nu devant moi, il faut pas 2 minutes pour que je sache quoi faire et où, comment le faire. Ça a été une espèce de truc de bon, bah, ben, au fait, c'est ça.
C'est très simple.
J'ai la chance, contrairement à beaucoup d'homosexuels qui ont des histoires compliquées, qui même peuvent partir au refuge, l'association qui aide les homosexuels qui sont, rejetés de chez leurs parents, etc.
Je le mettrai dans les notes du podcast.
Moi, j'ai énormément de chance, en fait. J'ai une famille et j'ai un environnement qui ne m'a jamais rejeté. J'ai toujours été accepté. Même s'il y a des moments un peu compliqués, mais c'est en vieillissant, je me suis dit, mais en fait, quand je croisais des homosexuels qui avaient une vie un peu compliquée, enfin qui avaient une annonce un peu compliquée, un coming out un peu compliqué, je fais, mais j'ai jamais connu tout ça en fait. Mmh. Donc je comprenais pas ça non plus. Le côté c'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué.
Ouais.
Les années passant, j'ai aussi compris un truc, c'est que eux ils ont accepté qu'après moi j'ai aussi dû faire de la pédagogie juste pour leur expliquer des choses, pour poser des mots ou pour les rassurer de certains trucs. Mais j'ai jamais été rejeté. Donc pour le coup, bah après. À partir du moment où j'ai 19 ans, alors je suis opéré, j'ai été circoncis, j'ai embrassé un garçon, je sais ce que c'est.
Validé.
Donc là, j'ai validé aussi. Bah après, c'est parti. Sauf que bon, le premier garçon, bon, je l'ai embrassé, je l'ai branlé vite fait une autre fois, puis c'est fini. Voilà. Le deuxième, pareil, c'est un peu une récurrence. Un mec qui est pareil, embourbé dans une espèce d'histoire avec une nana très compliquée. Alors, pas hétéro-curieux. Lui, homosexuel, 100%, mais qui par contre, pour des histoires de vie perso, était revenu en France, avait eu des soucis de santé très 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 importants. En l'occurrence, il avait eu un accident de voiture très violent et en gros, ils en étaient sortis avec pas de séquelles, avec des opérations assez lourdes, etc., mais pas de séquelles. Et en gros, c'est l'infirmière qui s'est occupée de lui, qui était tombée amoureuse de lui, et donc lui s'était embarqué là-dedans. Ah non, mais il avait trouvé en plus une infirmière qui était franco-portugaise, donc c'est les parents de cette femme-là avaient une immense maison, il avait un portrait de lui en pied dans la maison. Merde. Enfin, oh, mais le truc, mais moi quand il me racontait ça, je fais, eh oui, enfin, je te rappelle que entre temps, quand même, comment te dire, t'es à quatre pattes et je suis derrière toi, donc bon, en soi, les femmes, c'est pas vraiment ton délire.
Mais pas sûr que cette image irait dans la maison au Portugal, par contre.
Ça me ferait beaucoup rire, oui, mais non, je pense pas.
D'accord. Théo, il était coincé.
Mais complètement.
Okay. Donc, avec lui, t'as ton premier rapport sexuel.
Oui.
Alors, comment ça se passe?
Pour moi, c'est pas la vraie première fois. La première fois arrive avec celui d'après.
D'accord.
Avec lui, c'est.
Pourquoi c'est pas la vraie première fois?
C'est de la découverte de la sexualité, mais il n'y a pas de. Pour moi, les rapports, en fait, restent encore superficiels pour le
D'accord.
coup. Donc, ce que je vis avec lui, c'est je commence à découvrir un petit peu juste. Comment on fait quelque chose avec quelqu'un d'autre.
Vous vous touchez.
C'est ça.
Vous embrassez.
On s'embrasse, on se touche, on se branle. Je suis même pas sûr qu'il y ait pénétration à l'époque. Donc c'est de la simple découverte.
Tu découvres la fellation avec lui?
Non. Enfin, pas dans mon souvenir en tout cas. C'est celui d'après. Première approche de l'intimité.
Mm-hmm. Mais pas encore la sexualité.
Mais qui m'a pas marqué plus que ça, quoi. D'accord. C'est-à-dire que bon, j'ai quand même le corps d'un autre homme en face de moi nu. On fait quand même des choses un peu. Enfin, on joue pas au Scrabble non plus. Mais il se passe pas plus que ça, quoi. Et en fait, c'est celui d'après.
Ça, c'est des gens que tu rencontres toujours sur.
Toujours par réseaux sociaux, un site internet, etc. Je n'ai jamais rencontré aucun de mes compagnons dans la vraie vie. IRL, comme on dirait maintenant pour les jeunes.
Et donc, celui d'après?
Eh ben, celui d'après, c'est un mec avec qui j'ai discuté pendant. Plus de 6 mois, et qui un jour me dit « Bon, viens à Paris, je t'accueille une semaine en vacances, machin, tout ça. » Bon, moi, je commence mes études de comptable à l'époque, je suis en BTS, donc 20 ans. Je sais juste qu'il est plus âgé, je sais qu'à l'époque, il me dit qu'il a 40 ans, sauf qu'en fait, il en avait 45.
Ah yes, 25 ans d'écart.
25 ans d'écart. Et lui, pour le coup, je passe une semaine à Paris, mes parents me laissent partir, et ça va durer 5 ans.
Ah ouais? Donc, t'es resté en couple avec un homme qui avait 25 ans de plus que toi. J'ai du mal à le dire. 25 ans de plus que toi pendant 5 ans.
Ouais.
Donc, vous êtes quitté. Il en avait 50.
Oui, il en a 62 aujourd'hui.
Je suis hyper forte en calcul mental, mais bien moins que toi qui es comptable.
Il en a 62 aujourd'hui.
Ah ouais.
Et oui.
Alors,
oui.
Quand tu vois cet homme,
oui.
Que nous appellerons Jean-Luc, pas du tout. J'ai envie de faire une blague. Quand tu rencontres cet homme, la première fois que tu le vois, donc, bon, tu savais qu'il avait une quarantaine.
Oui.
Comment ça se passe? Donc lui, il était déjà très établi dans sa vie, en plus.
Alors lui, il était établi dans sa vie. Quand je le rencontre, il me plaît physiquement,
ouais.
De visage. Aujourd'hui, je dirais non, parce que quand je le vois aujourd'hui, je fais non.
On a tous un ex comme ça, voilà. On se dit comment j'ai fait.
Non, mais moi, j'en ai 3 comme ça. J'en ai 3 où je fais mais pourquoi? Puis j'ai des amis aussi qui me disent mais pourquoi ces 3-là? Mais lui, en l'occurrence, donc il me plaît quand même. Il est posé. Il a certains traits physiques qui me plaisent. Et surtout, il a comme passion la danse, le modern jazz. Donc autant te dire qu'à l'époque, petit gars de 20 ans, avoir un mec de 45 ans. Bon, un peu plus petit que moi, c'était un peu le problème.
Tu mesures combien?
Je mesure 1m77, il devait mesurer 1m70.
Oui.
Et je préfère les hommes grands. Enfin, mon compagnon aujourd'hui, il fait 1m80, c'est pour rien. Mais en fait, je rencontre cet homme et donc pas tous les suivants, mais certains des suivants auront les mêmes caractéristiques.
Mais le fait qu'il fasse de la danse, c'est bien?
Alors, c'est pas un critère, mais c'est juste que quand je le vois nu, je fais.
Ah oui, le corps, bien sûr, évidemment.
Ah bah.
Ah oui, le pratiquer.
Ah bah oui, enfin, musclé de partout, d'en haut, d'en bas, tout. Et c'est avec lui, en fait, que je découvre vraiment la sexualité.
J'imagine, il a été ton vrai mentor.
Oui.
Donc, vous passez cette semaine-là entière?
On passe une semaine entière, comme ça, en fait.
Vous couchez ensemble dès le premier soir?
Trois, oui. Il m'explique comment faire une fellation, comment machin, etc.
Ah ouais.
Et à l'époque, je suis uniquement passif avec lui. Ce qui va finir par poser problème un peu plus tard. Mais à l'époque, je suis uniquement passif. Et donc, en fait, on commence les choses comme ça.
Vous avez un rapport égalitaire? Où il a quand même ses 25 ans de plus que toi qui pèsent, qui pèsent. On s'entend, hein, pas de façon péjorative, mais tu sens la différence dans votre quotidien et dans votre vie qui va devenir une vie de couple, hein, parce que 5 ans...
Ça va finir par peser après. Okay. C'est-à-dire que pendant les 2 premières années, en gros, je le rencontre au mois d'octobre. Si on compte en année scolaire, je termine 3 ans et demi après, je termine mes études.
Mm-hmm.
Donc pendant 3 ans et demi, moi, je suis à Nantes. Et lui, il est à Paris, donc on se voit les vacances scolaires, on est énormément en contact. Je vois pas la différence à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'ai ma vie, j'ai mes potes ici, je suis un étudiant très studieux, je sors très peu, je picole pas à l'époque, je suis chiant. En plus, je suis comptable à l'époque, je fais des études de comptabilité, donc je suis encore plus chiant.
Mais attends, tes parents savaient que tu sortais avec un gars qui avait 25 ans de plus que...
Ils l'ont su un an après.
Parce qu'ils avaient à peu près, ils auraient pu avoir le même âge.
Oui, ils l'ont su un an après quand je leur ai présenté. Donc l'histoire commence. comme toutes mes histoires sauf la dernière, comme toutes mes histoires après, enfin comme beaucoup de choses dans ma vie d'ailleurs, ça commence, je me laisse porter en fait. Dire que ce gars me plaît, sexuellement ça marche, et en fait je m'embraille là-dedans, mais sans réfléchir que je suis en train de m'embarquer dans une relation. C'est juste 5 ans après où je me dis, ah en fait ça a quand même duré 5 ans cette histoire.
Vous vous aimez ?
Lui, je sais que je dois faire partie du top 3 dans sa vie. C'est-à-dire que lui, comme d'autres après, m'ont aimé, mais d'un truc, voilà. Moi, avec le recul, je comprends que non, en fait.
D'accord.
Mais je ne le sais pas à l'époque. Je l'ai compris, je sais pas, il y a peut-être un an. Mon compagnon actuel, je peux dire que je l'aime parce que je sais ce que ça génère, en fait, chez moi aujourd'hui. Je comprends les émotions que ça génère ou les choses qui font que j'ai cet attachement et cet amour pour lui.
Ça se voit quand on parle, t'as les yeux qui brillent.
Voilà, je ne l'ai pas eu pour ceux d'avant.
D'accord.
Ils m'ont aidé à cheminer pour plein de choses. Durement parfois, on pourra en reparler, mais en tout cas, le premier, lui, il m'a juste appris ce que c'était que la sexualité homosexuelle, en fait.
C'était un bon mentor ?
Oui, parce que la chance que j'ai eue avec lui, plus tard, après, dans ma vie sexuelle, je vais aller dans des trucs un peu plus déviants. Et le fait d'avoir eu quelqu'un entre mes 20 et mes 25 ans qui...
On va dire moins conventionnel que déviant.
Moins conventionnel. Oui, parce que déviant, c'est les autres qui pensent que c'est déviant,
oui,
parce que moi, je vois pas ça comme déviant non plus.
Surtout que c'est ce que, je ne sais pas ce que tu vas raconter, mais s'il y a des gens qui se retrouvent, ils vont dire, mais c'est pas déviant du tout, ça. Enfin, c'est une sexualité, en tout cas, avec lui.
Oui, mais oui, très... c'est une sexualité très classique, vanille, si on veut.
Pénétration
anale, pendant les 5 ans, bon, il y a eu des aléas quand même. Mais en tout cas, c'est qu'au final de tout ça, quand je suis allé après vers des choses plus épicées, Eh ben, le fait d'avoir été pendant 5 ans avec quelqu'un qui était très stable, eh ben, aujourd'hui, en fait, quand je vois des fois des jeunes de 20 ans qui partent dans des choses très extrêmes, très vite...
T'as ce sentiment-là que les jeunes aujourd'hui vont très vite sur des sexualités plus intenses ?
Oui, parce que quelques années plus tard, je suis allé m'amuser du côté des trucs un peu BDSM. Et pour le coup, il y a une dizaine d'années, donc, déjà à l'époque, déjà, j'en voyais qui étaient un peu jeunes, qui avaient 20, 21. Certains sont très stables, sont très matures, savent ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Dans beaucoup de cas, je trouve qu'ils y viennent un peu vite. Dans le monde homosexuel, le monde hétéro, je ne connais pas. Et des fois, je me dis, mais en fait, c'est bien aussi d'apprendre à se connaître simplement avec une sexualité vanille, si on veut, mais au moins, on apprend à toucher le corps, à embrasser le corps, à étreindre un corps. C'est un truc que j'ai appris quand j'étais jeune, enfin, un peu. Premier compagnon n'était pas super romantique, donc on n'était pas non plus dans l'extase romantique avec les roses partout. Mais en tout cas, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec mon compagnon actuel, ça me sert, en fait. Parce que je ne suis pas parti dans un truc différent tout de suite ou décalé tout de suite. Ouais. Je me suis posé. Bon, après, c'est un peu chiant aussi au bout de 5 ans, j'avoue que... Quand j'ai voulu un tout petit peu inverser les choses et que j'ai voulu lui dire « Bon, bah Coco, tu vas te mettre à quatre pattes et puis on va y aller. » Ah bah là, bizarrement, ça a marché pas, en fait. Il n'y était pas.
Il n'avait jamais...
Non, il n'aimait pas ça du tout. Il était actif et pas, il n'était pas du tout passif. J'ai dû réussir une ou deux fois à le retourner, entre guillemets. Mais ça ne lui plaisait pas du tout.
Ouais.
C'est ce qui a généré la fin de la relation, au-delà du fait aussi...
T'as vachement mûri, je veux dire, en 5 ans, tu rentres dans ta vie active, professionnelle.
Et puis non, il y a aussi un critère aussi qui fait que ma sexualité a un peu changé, c'est que tout mon début de sexualité avec cette personne-là, j'étais passif. Sauf qu'entre-temps, alors c'est pas du tout sexuel, il y a beaucoup de gays où c'est sexuel, j'ai fait des fissures anales, j'en ai fait 2. Oui, tu peux dire ça.
Ah bah, y a Julien là, qui en parlait là, d'un épisode il n'y a pas très longtemps, il me racontait ça, c'est hardcore. Hein.
J'ai écouté son épisode et je sais qu'il est
Il n'est pas encore fait opérer. Et là, et ça fait hyper longtemps qu'il est...
Mais je ne sais pas comment il fait pour tenir aussi longtemps, parce que moi j'en ai fait 2 et au bout d'un moment tu ne peux plus. Au-delà de la vie sexuelle, en fait, dans la vie quotidienne, le matin, quand on va s'asseoir sur le trône et faire notre vie, c'est...
C'est
très compliqué. Et en fait, moi, j'en ai fait 2. La première, c'est soigné.
C'est lié à la pénétration anale ?
Pas du tout.
Ah non, pas du tout.
Moi, dans mon cas, en fait, c'est juste physiologique parce que j'avais un transit feignant, on va dire. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, physiologiquement, faut quand même bien y passer. Et qu'en fait, bah, comme j'étais constipé très régulièrement, au bout d'un moment, je forçais. Et donc, au bout d'un moment, le corps a pété, quoi. La première fois, ça s'est réparé sans aucun problème. En 15 jours, une crème, un peu de massage et tout. Enfin, voilà, ça passe. La deuxième fois que je le fais, je fais une inflammation en plus, juste au-dessus en fait. C'est-à-dire que pour expliquer aux auditeurs, en gros, c'est quand on fait une fissure anale, c'est qu'en gros, on a le musculairement, en fait, c'est le niveau des muscles en gros où ça pète. Et en fait, juste au-dessus, on a une espèce de couronne en fait de petites papilles qui sont toujours rétractées, mais qui peuvent générer des inflammations. Et moi, dans mon cas, j'ai fait une inflammation, et donc de la papille qui était juste au-dessus. Et l'inflammation ne permettait pas de guérir la fissure anale en dessous. Ce qui m'a fait me faire opérer.
Ouais. Ils doivent cautériser, j'imagine,
en tout cas. Je pense qu'ils ont fait ça. Mais ces deux épisodes de fissure anale ont fait que, en fait, moi, dans ma vie, j'ai voulu me dire, bon, je vais passer de l'autre côté, je vais devenir actif.
Ah oui, il faut laisser un peu reposer la bête.
C'est ça. Sauf que mon compagnon de l'époque, lui, comprenait pas. Quand je me suis fait opérer, que je cicatrise, que je me soigne, et puis qu'il veut revenir comme un bourrin, et puis que malheur, je l'ai jeté contre le mur, je fais non, mais t'as pas compris, c'est pas possible, tu vas pas le faire du tout. Ça a commencé petit à petit, j'ai géré la fin de la relation.
À déliter, bien
voilà.
Sûr.
Mmh. Et la relation s'est arrêtée, j'avais 25 ans, et en fait, parce que mes études se terminent, je suis presque officiellement comptable, parce que je loupe mon dernier examen à pas grand chose.
Personne te juge.
Mais je me dis, voilà, j'ai fini mes études, ça fait 3 ans et demi que je suis avec ce mec. Bon, il faut quand même bien concrétiser quelque chose. Donc, je monte à Paris. Comme on dit, quand on est provincial, je monte à Paris comme les artistes. Et en gros, quand j'arrive à Paris, c'est parce que j'ai envie de concrétiser cette relation à l'époque. Et
quand
puis,
concrétiser, c'est que vous voulez vous engager.
Parce que ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble et que j'ai envie que ça avance, quoi.
Vivre avec lui, par exemple.
Oui, c'est ça. Et pour le coup, je vis avec lui pendant 1 an et demi.
Okay.
Mais sauf qu'en 1 an et demi, en fait, l'écart dont tu parlais tout à l'heure de 25 ans, là, je me le prends en pleine face au bout d'un moment.
Culturellement. Dans le rythme de vie, dans plein de trucs, puis dans vos étapes de vie, je veux dire 25
tout.
Ans, 5, enfin, t'as 23 ans et demi, 24 ans, lui presque 50, c'est un monde quoi.
Et puis dans les goûts aussi, c'est-à-dire que mon meilleur ami a énormément rigolé. Juste avant de rencontrer ce compagnon-là, je dis à mon meilleur ami, non mais moi j'aime pas les clichés, j'aime pas les gays clichés, avec les t-shirts moulants et tout, machin, j'aime pas. Sauf que, donc mon premier compagnon, qu'il le croise la première fois, il me dit, tu veux pas dans les clichés, tu tombes sur un mec qui est toiletteur canin, qui aime la danse et qui écoute Nina Farmer.
Ah ouais, là tu les as tous cochés, PH, tous.
Voilà. Oui, puis en plus, quelqu'un qui veut pas vieillir, donc quelqu'un qui se teint les cheveux en noir corbeau parce qu'il veut toujours avoir les cheveux. On est dans un cliché total. Mais donc, au bout de 5 ans, ça se termine parce que...
Et donc là, tu arrives dans ta vie parisienne.
Je suis à Paris depuis 1 an et demi, je déménage. Et donc, quand je quitte ce mec, je me dis, banlieue sort de question. Je vais dans Paris intramuros. Trouve un premier appartement que je quitte au bout d'un mois parce que mauvais quartier, 18e arrondissement, la goutte d'or et tout. Oh là 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 là. On quitte. Et j'arrive dans l'appartement que j'ai occupé pendant 13 ans dans le 20e arrondissement. Et pour le coup, je me dis, pour commencer à s'amuser un peu, commencer à tenter autre chose. Donc, je me tape quelques mecs.
Que tu rencontres toujours par
des applis. Que je rencontre par des applis. À l'époque, le site s'appelait Gay Romeo et devenu Planète Romeo après.
Ah oui.
Je rencontre des mecs par cette appli. Je me tape quelques mecs comme ça, etc., etc. Je continue, je reprends quand même à ce moment-là aussi les plans sur des réseaux téléphoniques. Mmh. Et donc, je finis par, à un moment, tomber sur un mec qui veut des trucs un peu plus hard.
D'accord.
BDSM.
T'étais passif ou actif? Là, t'avais commencé à être actif?
Là, j'étais actif. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis encore actif. Il y a que depuis très récemment avec mon compagnon actuel où je suis encore actif, mais j'étais vraiment actif. Et en fait, au fur et à mesure de discuter avec lui, de tout ce que j'ai fait aussi depuis 1 an et demi grâce au confinement, tous les podcasts que j'ai pu écouter, les vidéos que je regarde, les trucs que je peux lire, petit à petit, je me dis, mais en même temps, pourquoi s'empêcher une aire de jeu? Dans la mesure où il peut y avoir plein d'aires de jeu différentes et plein de manières de jouer. Pourquoi m'empêcher des manières de jouer que j'ai connues quand j'étais très jeune, que je peux reprendre aujourd'hui?
C'est ce que disait Julien, la versatilité, il n'y a rien de mieux.
Donc aujourd'hui, je me pose beaucoup la question, sauf qu'en fait, un travail à faire, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de le faire. Sauf que psychologiquement, mon corps se fait...
Un peu plus, oui.
Non, mon corps n'est pas d'accord. À chaque fois que des gens ont testé, c'est non, mais en fait, non. Mon corps se referme tout de suite. Donc, je sais que j'ai un travail à faire là-dessus. De
lâcher prise, quoi.
De lâcher prise.
Ok.
Mais aujourd'hui, j'ai envie d'y revenir, mais pas du tout à l'époque. À l'époque, je suis célibataire, j'ai 25 ans, je suis à Paris, je suis tout seul. Je fais, mon coco, on va y aller, on va s'amuser, quoi. Donc, je ne suis que actif. Et donc, quand je commence à toucher du doigt les relations BDSM, je suis forcément actif.
T'as rencontré un partenaire qui t'y a amené?
Pas du tout. En fait, je me rends compte que dans mes recherches, quand j'étais étudiant et plus jeune, de tout ce qui est sexuel, porno, gay. En fait, j'aborde que la sexualité de manière brutale.
D'accord.
Viril, mais dans le sens physique. C'est-à-dire que dans les films, c'est que des gars super musclés qui renvoient un truc super...
Cuir moustache.
Oui.
On les adore.
Complètement. Cuir moustache, complètement. Et je finis par trouver des partenaires qui collent à ça. Donc la première fois que je mets les mains dedans, je fais... je sais pas faire, comment je fais. Et donc là, je commence à aborder ça par des relations, je croise un mec qui est pas très loin de chez moi à l'époque, et je fais un plan euro avec lui. Un plan euro, c'est...
Donc, urologie égale pipi.
Exactement.
Et ton premier plan un peu trash, c'est
ça.
Euro.
Mais sauf que, alors, c'est du euro entre guillemets, pour avoir vu des trucs après beaucoup plus, j'ai pas fait. Mais pour avoir vu des trucs, enfin, j'ai fait un peu plus après, mais pour avoir vu des trucs beaucoup plus trash après, c'est juste un plan très gentil où le mec finit dans sa baignoire et je suis tellement pas habitué qu'il me dit, ferme les yeux, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Et je finis par fermer les yeux parce qu'en fait, je n'ai pas l'habitude.
Tu lui fais pipi dessus.
Oui, mais en fermant les yeux.
Parce que tu n'étais pas encore...
Je
pense qu'il y a un vrai lâcher prise aussi à faire sur uriner déjà devant quelqu'un, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Uriner sur quelqu'un, c'est vrai qu'il faut déconstruire un truc social, quoi.
C'est ça. Et après, je rencontre un autre compagnon.
Mais tu prends du plaisir à faire ça? Tu te rends compte que c'est ce qui te plaît d'avoir
sur le moment, oui, je me rends compte qu'en fait, ça me plaît. Ouais. Mais je vais mettre du temps à comprendre exactement ce qui me plaît, par contre.
Bah oui, il y a tellement de choses.
Je touche du doigt les trucs et j'essaye. Donc, je teste ça. Je rencontre un autre mec qui habite en banlieue parisienne, avec qui je vais être pendant 6 mois, qui est très, 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 très sensible des tétons. Et alors là, je découvre une des clés d'entrée du corps masculin, mais alors pas pour tous les hommes, hein, faut pas y croire.
Ouais.
Tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça, chacun est unique.
Comme les meufs, hein.
Oui, je me doute.
Les tétons, c'est pas évident chez toutes les meufs.
Moi, personnellement, les tétons, c'est une clé d'entrée tout de suite. Quand je suis en bonne période, tu me frôles, je grimpe le plafond tout de suite.
Vous testez quoi ensemble?
On teste pas grand-chose parce qu'en fait, le coup de pas de bol dans l'histoire, c'est que pile à ce moment-là, je me fais cambrioler dans mon appartement.
Ah mince.
Et donc, je passe une traversée du désert de 6 mois de libido à zéro.
Ça t'a beaucoup échaudé?
Oui. Donc, ma vie sexuelle avec lui, pas top top. Le seul truc qui est très, 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 très drôle avec lui, c'est que c'est le seul homme dans ma vie qui me fait tirer à blanc. J'adore ta tête. À savoir que...
Une tête de hibou avec les yeux très ronds.
Mais oui, à savoir qu'en fait, tout homme normalement constitué, je l'ai appris très récemment... ne pas confondre, un homme, on est mécanique. Si on nous branle, au bout d'un moment, on va finir par éjaculer. Ça veut pas dire qu'on a un orgasme. Ça veut juste dire qu'on éjacule et que c'est vidé. Un orgasme, c'est un peu autre chose. Bah, lui, en gros, c'est le seul qui me suce, me fait pas jouir un orgasme, me fait jouir comme on jouit quand on éjacule, sauf qu'il n'y a rien qui sort.
Et comment vous l'expliquez, monsieur PH?
J'ai aucune explication. Je n'ai aucune
explication. T'as la sensation d'éjaculer?
Oui.
Mais alors attention, soyons un peu plus précis. Tu as déjà éjaculé une première fois quand il fait
non,
ça
non,
Ah non,
non.
Parce que c'était le docteur Gilbert Boujaoudé dans la FAQ de la saison 1 qui parlait des éjaculations sèches qui étaient fait un retour d'orgasme quand il n'y a plus rien, tu peux re-avoir la sensation de... Mais c'était pas ça.
Non,
incroyable.
C'était la même chose, sauf qu'il n'y avait rien eu avant. Et...
Mais quel est ce secret?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en plus, il y a la première fois que ça arrive, après je suis debout, il doit être à genoux, et je me souviens de le regarder, de me dire qu'est-ce qui s'est passé et pas d'explication. Et les 6 mois qu'on va passer ensemble, entre guillemets, bah, ça va se reproduire plusieurs fois. Et j'ai jamais d'explication. Et encore aujourd'hui, j'ai pas d'explication.
Incroyable. Quelle est cette sorcellerie?
Et en plus, une espèce de frustration, mais immense.
Mais t'avais du plaisir quand même?
Le truc qui est ultra frustrant, c'est qu'en fait, tu jouis, donc t'as toute la sensation physique. Mais t'as les couilles pleines. Mais t'as pas envie de te rebranler parce que bah, t'as déjà joui. Donc t'as l'espèce de redescente après de bon, ça y est, c'est fait.
Ah
quoi.
Oui, ça doit être un peu perturbant, oui.
Et donc de dire, mais non, en fait, mais c'est rien. Mais non, j'ai rien eu.
Ok, donc lui, tu fais 6 mois. Bon, c'est pas.
Bon, 6 mois, puis au bout de 6 mois, on s'arrête, on passe à autre chose. Je retourne de nouveau aux réseaux sociaux, machin. Enfin, réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Comme d'autres fois après, je recroise, enfin, je me fais plusieurs plans célibataires. Puis je finis par tomber sur un mec avec qui je fais un plan et avec qui je vais rester 3 ans.
Okay.
Dont je ne suis pas amoureux non plus, hein, je m'en suis rendu compte après.
Mais il y a une connivence quand même.
Mais il y a une connivence parce que déjà il est plus jeune.
T'as fini les sugar daddy?
J'ai fini les cheveux blancs et la pipe. Donc j'ai 27 ans, je rencontre ce type et c'est vanille. On a par contre culturellement, psychologiquement, plus d'accroche parce qu'on est plus de la même génération. Il me fait découvrir des choses qui me font mourir de rire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec lui, je commence à, entre guillemets, rajeunir psychologiquement. Il me fait découvrir le Chevalier du Zodiac, que je ne connaissais pas et je découvre ce que c'est. Enfin, je connaissais, mais je n'étais pas fan. Lui est fan. Donc il m'explique ce que c'est, il me raconte Club Dorothée, je regardais, mais moi je regardais Sailor Moon et ça couvrait la chasseuse de cartes. Donc
je viens de faire le geste de Sailor Moon.
Voilà. Mais moi c'était ça. Donc lui me fait découvrir ça, il me fait découvrir un truc qui me fait mourir de rire aujourd'hui, il me fait découvrir Kaamelott. Que quand j'étais chez mes parents et que je regardais ça à la télé sur M6, avant 20h, je regardais ça, je fais mais c'est pas drôle en fait. Et c'est le début de je commence à recoller avec mon âge. C'est-à-dire que les 5 ans que j'ai passé avec mon premier compagnon, je suis devenu trop mature.
Ouais, t'as le sentiment que t'as déconnecté de ta génération.
Ah bah c'est-à-dire que je suis un gamer depuis... J'ai connu la première NES. Donc pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo, la NES...
Ou qui n'ont pas ton âge.
Ou qui n'ont pas mon âge, t'es mignonne. Donc la NES, c'était une console de Nintendo. C'est une des premières consoles sorties commerciale.
Faut imaginer une grosse boîte à chaussures grise.
C'est ça. Donc j'ai connu ça, j'ai connu la Super NES qui arrivait après, j'ai connu la PlayStation 1 qui arrivait après, et en fait, l'époque où j'étais avec mon premier compagnon, toute la culture, les jeux vidéo, toute cette époque de mes 20, mes 25 ans, j'ai fait une impasse de ça, parce que c'était pas ce que mon compagnon de l'époque aimait. Et comme j'avais tendance à être un peu dans le mimétisme de mon compagnon adore, donc je fais tout ce qu'il adore. Donc là, je rencontre quelqu'un qui me ramène à ça.
C'est ça, qui te realigne avec ton âge et ce que tu es, ta génération.
C'est ça. On a quand même 7 ans de différence. Moi, j'en ai 27 et lui, on a 34
à
l'époque.
Mais 27-34, c'est pas 20-45. Non. Hein. Donc lui, ça dure 3 ans.
Ça dure 3 ans et pendant que je suis avec lui, en fait, Zanzi BDSM remonte. C'est-à-dire que quand je le rencontre, il le sait. Je lui en parle. Sa réponse, au bout de, on est ensemble depuis. Alors, c'est quelqu'un de très jaloux et aussi qui comprenait pas tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'explique que on fera pas ça
moi.
Parce que c'est sa phrase était c'est amoral de faire ça.
Amoral, même pas immoral.
Non,
amoral.
Amoral. Ça m'est resté gravé de. Donc dans ma tête c'est ok d'accord j'oublie.
Ah ouais, tu t'es pas imposé sur tes désirs.
Non, sauf qu'au bout d'un an et demi c'est venu me rechatouiller.
Bien sûr.
Sauf que je n'en ai pas parlé à l'époque. Et que je suis allé chercher.
La réception n'était pas très engageante.
Hein. Ah bah non. Donc je suis allé chercher.
Virtuellement.
Toujours virtuellement. Mais sauf que le virtuel, je finis par le concrétiser physiquement. Et je finis par...
sans lui dire.
Croiser 2-3 mecs sans lui dire. Je lui ai caché pendant l'année et demie qui est restée. Il l'a découvert et je vais raconter après ce que ça a généré. Mais au début, donc sans lui dire, puis il le sait pas. Et puis on a des boulots qui font que je peux arranger ma vie pour ça. Où est le problème en fait? Je fais de mal à personne.
Pas vu, pas pris.
C'est un peu ça. C'est même complètement ça à l'époque en fait. C'est en même temps pourquoi lui dire, en même temps. Il faut dire aussi qu'à l'époque, je sais pas comment intégrer ça dans ma vie en fait. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment en parler. Et puis comme il m'avait fait une réaction.
Pour toi, ça avait pas d'incidence sur votre couple? Tu te sentais comment?
Non, parce que je faisais la part des choses. Lui avait les sentiments et l'amour et le physique était à côté.
D'accord.
Toute la période où j'ai fait des choses BDSM, c'était du physique. Il n'y avait pas de sentiment là-dedans. Mais sauf que lui, il ne l'entend pas comme ça du tout. Il ne le sait pas. Et je finis quand même par trouver des personnes qui sont là-dedans et qui, pour le coup, m'apprennent des choses. Et je finis par avoir quelqu'un qui va être régulier pendant 3 ans au total, dire un an et demi plus un petit peu après.
Donc ça a été ton amant caché pendant un an et demi?
Oui, j'en ai même eu deux à une époque.
Coquin. Il est comptable, il sait gérer.
Mais le premier, en tout cas, que moi je considérerais jamais comme un amant, parce qu'en fait, c'est dans le... Alors je sais que ça va choquer beaucoup de personnes dans ce que je vais dire, mais dans ma manière de voir les choses, oui, c'est caché, ça pourrait être considéré comme un amant. Pour moi, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'affectif.
D'accord, c'était que sexuel.
Oui, totalement sexuel, pour évacuer quelque chose, pour pratiquer quelque chose que je ne pouvais pas pratiquer dans mon couple.
Et vous faites quoi avec ce jeune homme?
Alors ce jeune homme qui n'en est pas un, parce que ce jeune homme est âgé, je ne connais pas son âge, je n'ai jamais su son prénom, il n'a jamais su le mien.
Pendant 3 ans?
Pendant 3 ans.
Ah, et c'est pas facile, comment vous appelez?
On trouve des manières de se contacter, machin, etc. Enfin bref, on n'a pas de nom en tant que tel.
D'accord.
Et moi, en fait, à ce moment-là, plus tard, quand je vais redevenir célibataire, je vais donc avoir plusieurs plans cul. Et donc, les deux principaux qui avaient des petits noms, il y avait celui-là qui existait depuis un an et demi, qui était Batman.
Ok.
Je vais t'expliquer pourquoi après. Et il y avait Stew. Alors, Batman, pourquoi? Parce que ce mec-là, quand je le rencontre, j'ai en mémoire mon cambriolage qui m'a quand même beaucoup affecté. Et donc je me dis, mon compagnon de l'époque, il est venu chez moi, il connaît mon environnement, etc., il n'y a pas de souci. Faire venir quelqu'un d'étranger chez moi, je flippe. Je me dis, j'ai pas envie qu'il voit mon intérieur, j'ai pas envie que ça se reproduise. Et dans le milieu BDSM, il a un délire, à ce moment-là, lui, c'est d'avoir les yeux bandés tout le temps.
Ah, d'accord.
Donc Batman est venu de ça, parce qu'en fait, il portait un masque sur les yeux tout le temps. Et ça, ça sur les 3 années où je l'ai côtoyé, ça a duré 2 ans.
À quel moment il met son masque ?
Quand il était devant la porte. J'ouvrais la porte, il me voyait pas, je le rentrais chez moi, je le déshabillais, je le rhabillais, machin, tout ça. Et quand il revenait sur le palier, je fermais la porte.
Incroyable.
Et il enlevait le masque.
Vous faisiez quoi d'autre ?
Eh ben, il y a eu Donc l'urologie est revenue. Parce que lui était fan et j'ai découvert ça avec lui.
Tout le monde aime bien se faire pipi dessus ? Ou il y a un receveur et un donneur ?
Non, il y a un donneur et un receveur.
D'accord.
Et en l'occurrence, comme je suis le dominant, je suis le donneur, il est le receveur. Après, je découvre tout un tas de jouets qui existent dans le monde BDSM. Je découvre les pinces à tétons, les pompes à tétons, les parachutes à couilles. Enfin, je découvre plein.
C'est vraiment des très jolis noms, parce qu'on voit tout de suite ce que ça veut dire.
Ah bah oui, mais bah voilà. Après, les pompes, les pinces, ça pince ou ça développe. Les parachutes, ça laisse. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, je passerai les détails de plein de choses.
Ah non, bah, les gens adorent les détails, hein, voilà. Tu sais. Et donc, toi, à chaque fois, c'est toi qui, comme tu es dominant, etc., toi qui pratiques sur Batman, en l'occurrence.
Oui.
Ok, donc Batman vient avec sa petite valise.
Avec son petit sac et on s'amuse et basta.
Comme dirait Alex Contard, un maître dominant, son sac à luxure.
Oui, c'est un peu l'idée. C'est un sac à dos en l'occurrence.
Son sac à domination.
Oh, je vais garder ça.
Ah, le sac à dos. Donc du coup, avec Batman, pendant 3 ans, vous pratiquez. Donc quoi, t'apprends
J'apprends des trucs, mais après, ça reste quand même Alexandre Contard pour voir son compte Instagram et voir ce qu'il fait. Je suis pas au même niveau du tout. Je suis à un niveau beaucoup plus, débutant, etc. Moi, je préférais les cordes en chanvre, personnellement.
À chacun sa petite préférence.
Voilà,
hein,
je préfère les matières naturelles. Mais voilà, je navigue là-dedans, donc au début
avec Batman
caché.
Pendant 3 ans.
Ouais, donc Batman ça durait
un an et demi caché.
Plus
Stu en parallèle.
Alors Stu c'est venu un peu après, que Stu c'est un steward.
C'était assez logique et c'est très cliché encore une fois, hein,
voilà,
les pauvres stewards à chaque fois.
Ah bah oui, mais en même temps moi-même j'y croyais pas, je fais les stewards et tout c'est pas possible, mais en fait si, les stewards il y a beaucoup,
très beau et très gay,
je confirme, lui il était très très gay. Mais par contre lui, relation vanille. Rien de...
D'accord.
Non. L'autre dont je me souviens qui est dans une relation BDSM, c'est un monsieur à l'époque d'une 60aine d'années. Alors moi, j'ai 30 ans. À ce moment-là, je suis célibataire quand je le rencontre. J'ai terminé d'être avec mon deuxième compagnon dans des circonstances assez
Ah oui, donc c'est ça. Il apprend que tu le trompes.
Ah bah en fait, mon deuxième compagnon, pour le coup, donc pendant 1 an et demi, il finit en fait par le découvrir, mais pas... Comment dire ça ? On n'en parle pas, en fait, au début.
Mais il le comprend.
Il m'espionne. Mais il m'espionne de manière sale, c'est-à-dire que, pour ce que j'en ai compris, il navigue dans des trucs un peu dark web, etc. Il m'espionne au niveau d'Internet, au niveau de mon portable, au niveau
de choses.
C'est ça. À tel point que le moment où je l'ai compris, c'est le jour où il a été capable de me ressortir presque mot pour mot une conversation que j'avais eue avec une de mes sœurs où il n'était pas là du tout. Ah non, mais comme il avait des suspicions, bah, il a cherché.
Ah ouais, ça fait flipper. Hein.
Sauf que bah, quand j'ai appris ça, j'ai mis un peu de temps quand même à encaisser le coup.
Bah, surtout, t'as pas envie de croire que la personne avec qui tu es t'espionne à ce point-là, tu vois.
Non, et puis surtout, c'est que même si j'ai pas bien fait de pas lui avoir dit, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû trouver une manière d'en parler ou de le quitter plus tôt pour faire autre chose, enfin bref. J'ai pas aimé du tout la manière de faire, ce qui fait qu'aujourd'hui...
Ah bah ça peut être un peu traumatisant même hein, d'être espionné comme ça. Hein.
Ah bah ça l'est parce qu'aujourd'hui, compagnon par exemple actuel a des petits brins de jalousie que moi j'ai pas du tout, je suis pas jaloux du tout. Je lui ai déjà dit qu'en fait la jalousie j'ai du mal parce que pour le coup ça me rappelle ça. Et je lui ai déjà dit en fait que ça me rappelait ça. J'ai quand même aussi mûri, j'ai quand même aussi déconstruit beaucoup de choses aussi de cette histoire-là. Il a pas envie de me perdre, il est amoureux, etc. Et donc j'accepte ça dans la mesure où ça devient pas excessif. Ok, t'as un petit brin de jalousie, ça fait partie de toi, je vais pas tout changer.
Quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, faut pas,
à partir du moment où ça devient pas maladif, où t'es pas en train de me pister, ça va.
Donc d'accord, donc termine mal du coup cette relation.
Ah oui, ça se termine très mal. Parce que ça se termine mal parce que quand je découvre ça, en fait, je fais en fait c'est pas possible
du tout.
Et quand on se sépare, donc je le fous dehors mais gentiment parce que je le mets pas avec ses valets sur le palier. Je lui dis bah voilà, je te laisse. Je suis plus une semaine ou 15 jours pour récupérer tes meubles, machin, tu te casses. Et en fait, je crois que je lui laisse une semaine quand on en parle. On a quand même passé, pas 4-5 mois, où, entre le moment où il l'apprend et le moment où je le mets dehors, il doit se passer 5 mois.
Imagine.
Mais 5 mois pendant lesquels où lui, il va aller voir le monde BDSM, il va aller essayer les trucs-là. Et en fait,
comprendre.
Il va m'en parler pour essayer de me récupérer en se disant si je vais voir et que je m'y intéresse, il va voir que je m'y intéresse, donc potentiellement, on peut faire quelque chose.
Bah, c'est une preuve d'amour, je pense, de sa part.
Oui, sauf que l'épisode d'espionnage...
Ouais, il trahit ta confiance, quoi.
Mauvaise idée, quoi. Bon, et en plus, moi, à ce moment-là, je fais aussi un rejet de ce monde-là complètement. En fait, à l'époque, je commence à voir les travers de ce monde-là, c'est-à-dire des gens qui partent dans des excès que je contrôle pas, que je comprends pas.
De violence sont...
de... Non, pas forcément de violence, mais de pratiques, des fois, qui sont de plus en plus...
Comme quoi, par exemple ?
Les extrêmes, par exemple... Je me souviens d'un mec qui me contactait sur un site de rencontre où on était, qui n'était pas un site spécialisé. Le mec était ultra fan de Fist. Mais quand je voyais les photos, ça me faisait peur parce qu'en fait, j'avais l'impression que le mec était tellement accro qu'il ne se contrôlait pas. Autant, tu as eu des mecs qui sont passés à ce micro, qu'on en parlait, mais avec un espèce de recul, une stabilité,
notamment,
une bienveillance, etc.
Axel Abyss, hein, qui est extraordinaire.
Voilà, mais ce mec-là, quand je l'entends, par exemple, je me dis, ok, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait pourquoi, etc.
Ce mec-là te fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pratique qui te...
Les mecs qui s'accrochent... Alors, les gens qui peuvent s'accrocher au plafond avec des crochets dans le dos et tout. Ou des gens qui peuvent avoir des pratiques... La scatologie, par exemple, que je comprends pas du tout. Je suis d'accord pour dire qu'on m'a répondu ça des fois de... Oui, enfin, tu fais bien. Oui, mais c'est pas...
Bien
j'ai
sûr.
Des limites aussi, je suis comme
oui,
tout le monde. J'ai peut-être des standards un peu plus élevés que la normale, enfin que beaucoup de gens.
Mm-hmm.
Donc je termine cette relation avec ce deuxième compagnon. Mm-hmm. Je continue quand même le BDSM parce que ça m'intéresse quand même.
Mm-hmm.
Je creuse quand même. Et au bout d'un moment, je finis quand même par voir des travers, enfin voir des choses qui me font peur en fait, que je comprends pas.
Tu sens que tu maîtriseras pas quoi.
C'est ça.
Okay,
et dans lesquels j'ai pas envie d'aller.
Oui.
Le seul truc auquel je fais, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvé de nouveau célibataire, donc j'ai 30 ans. Heureux d'avoir 30 ans à ce moment-là. En plus, comme j'ai beaucoup de gens qui me disent « Putain, la trentaine, moi, ça me casse les couilles. » En fait, moi, la vingtaine, c'est une dizaine de calvaires. C'est une dizaine où je me découvre, où je comprends que je suis homosexuel, où je comprends ma sexualité, où je commence à construire beaucoup de choses. Et donc, pour beaucoup de gens, la vingtaine, c'est la dizaine où ils font la fête, où ils s'amusent, etc. Moi, c'est une dizaine où je me fais chier. Quand j'en repense aujourd'hui, je fais « Oh, putain, mais j'étais boring, en fait. » J'étais d'un ennui, mais
confondant. Enfin, tu faisais pipi sur les gens, quand même. C'était
oui, mais vers la fin de la vingtaine, pas au début. Mais en fait, je me rends compte juste, là, la trentaine arrive et que là, par contre, je peux m'éclater.
Ouais.
Parce que je me connais plus, parce que je m'accepte plus, parce que donc je peux y aller.
Là, t'as pris les murs qu'il fallait prendre, t'es bien, quoi.
J'ai pas encore pris tous les murs, j'en ai encore pris quelques-uns après, mais j'ai pris les plus importants, je pense, à ce moment-là, en tout cas.
Donc t'arrives dans ta trentaine.
Et donc j'arrive en me disant, bon, bah voilà, je suis célibataire, BDSM, youpi, je vais m'amuser, quoi. Batman est toujours là. Je côtoie 2-3 autres mecs à côté, mais sans plus. Ça va durer comme ça pendant un an et demi. Donc j'ai Batman et j'ai un monsieur qui va arriver à un moment, dont j'en parlais un peu avant.
Un monsieur de 60 ans.
Un monsieur de 60 ans qui est un architecte à la retraite. Et ce monsieur était fan de se faire travailler les couilles. Écraser, piquer, étirer.
J'ai pas de coucougnette.
Pour
ça
le coup, il avait par exemple un instrument, c'était une espèce de carré en métal avec une plaque en bas, avec une vis, et en fait on visse. En fait, on passe les couilles en haut, il y a la vis en bas, puis plus on visse, plus ça serre, et plus ça écrase. Puis on passe une roue dentée dessus, et puis on peut faire plein de trucs après.
Le corps est étonnant quand même. Hein.
J'avoue que même si aujourd'hui ça ne m'intéresse plus, je reste très curieux de ça. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point les pratiques peuvent être. Diverses et variées, qu'il ne faut pas avoir de jugement là-dessus, et qu'effectivement, le corps humain a une capacité d'accueillir des choses.
Quand tu lâches le cerveau.
Non, je reconnais qu'avec le temps, même si je ne pratique plus aujourd'hui, ça m'a gardé quand même le fait que dans ma sexualité aujourd'hui, avec mon compagnon actuel, ça a été un sujet à un moment non abordé, parce qu'il le savait quand on s'est rencontrés, mais on n'en parlait pas. On a fini quand même par en parler à un moment, et c'est aujourd'hui quelque chose où même on n'ira pas là-dedans non plus, j'ai pas envie de l'emmener là-dedans. Lui est prêt à tester des choses, mais j'ai pas envie, pour l'instant. Mais en tout cas, ça m'a amené le fait que le sexe vanille peut être très épicé sans aller jusqu'au BDSM.
Bien
on
sûr.
Peut tester des trucs, on peut attacher, on peut, voilà. Il y a beaucoup de nuances qu'on peut mettre là-dedans.
Dans cette trentaine flamboyante, tu continues encore un peu avec ce monsieur au coucougnette écrasé. Qu'est-ce qui va se passer dans ta sexualité ? Est-ce que tu continues, toi, la masturbation, le porno, les choses
oui.
comme ça ?
Oui, bah ça, je continue pendant très 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 longtemps, jusqu'à très récemment encore, j'ai continué.
Le porno ?
Ça m'arrive. Le porno, là, j'ai pas totalement arrêté, mais j'en suis très 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 loin aujourd'hui, parce que ce qui est produit...
Tu regardes plus que tu regardais avant ?
Ah, pas du tout. Ça peut arriver de manière très épisodique, et en fait, à chaque fois que j'en regarde, je me dis « Mais pourquoi tu regardes ça ? Enfin, c'est mauvais, c'est toujours la même chose, c'est... » Arrête. À l'époque, non. À l'époque,
oui.
je me branle beaucoup, ça, pendant très longtemps ça m'a aidé à dormir, enfin voilà. Ce qui se passe à ce moment-là, si je refais le film en sens inverse, j'en ai 37, je suis avec mon compagnon depuis 4 ans, 32, 31, donc j'ai 30 ans. Je suis célibataire et au bout d'un an, je vais trouver, mais là sur un site internet spécialisé dans les relations BDSM, je trouve un nouveau compagnon, mais au départ pour m'amuser. Bon bah ça va durer un an cette histoire, où bizarrement on ne va jamais aller là-dedans.
D'accord.
Mais jamais. Là c'est le summum en fait de mon mal-être, c'est que je tombe avec quelqu'un qui donc est là-dedans, est veuf. On a à peu près le même âge. Et en fait, il avait perdu son mec depuis moins d'un an, je crois.
Ah ouais, donc compliqué.
Que je tombe avec quelqu'un qui...
Oui, il ne doit pas être très, très, très heureux.
Non, non, non. C'est quelqu'un qui a énormément de problèmes dans sa vie, qui a beaucoup...
Qui en deuil.
Moi, j'arrive là-dedans avec l'envie de le sortir de ça, mais sauf que lui, bah, il n'est pas totalement prêt. Donc, je mets un peu de temps à rentrer chez lui et à rentrer dans sa vie.
Ah, puis le deuil, c'est tellement personnel.
Et puis, il traîne beaucoup de deuils. En plus, il ne traîne pas que le deuil de ce compagnon. Il traîne d'autres deuils plus anciens qui sont très compliqués. Moi, je tombe là-dedans. Voilà, je le rencontre et je me dis, bon voilà, pourquoi pas. Ça dure un an. C'est mon troisième compagnon officiel que je présente de nouveau à mes parents. Parce que le premier, qui avait 25 ans de plus, j'avais présenté mes parents. Le deuxième, celui qui avait l'espion Matahari version homme, enfin James Bond si on veut, bah lui, je l'ai présenté aussi à mes parents. Et donc, mes parents ont rencontré tous mes compagnons. Donc, le premier, ça s'est bien passé. Le deuxième, bon, bah, il l'aimait bien, mais sans plus. Et le dernier, par contre, ça ne durerait qu'un an parce que bah, moi, j'avais quand même un mal-être que je ne connaissais pas à l'époque. Que je vais découvrir à travers cette histoire-là.
Et puis quelqu'un qui est dans cet état émotionnel doit pas non plus t'aider.
Il le sait pas, moi je le sais pas non plus en fait. Ouais. Le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré cette personne, mes parents, je leur présente, ma mère ne l'a jamais aimé et elle m'a dit plus tard, elle me dit mais en fait quand il venait, il avait une aura noire autour de lui. Et en fait, ce qui se passe au bout d'un an, c'est donc mon BDSM, je commence vraiment à rejeter le truc en me disant en fait là c'est vraiment plus fait pour moi, pour le coup. Et en fait, on arrive, j'ai 32. Tout ce que j'ai accumulé depuis 10, 12 ans, le coup de l'espionnage, les relations qui se sont mal passées, peut-être l'homosexualité que j'acceptais pas totalement, mais je le savais pas. Enfin, plein de trucs qui, au bout d'un peu moins d'un an, il se passe en fait deux choses. Première chose, c'est que je m'explique pas pourquoi je passe pendant un mois, j'appelle mes parents tous les jours. De la semaine, pas le week-end. Le week-end, je leur fous la paix, mais tous les jours, je les appelle. Tous les jours. Dès que je sors du boulot à 19h, je les appelle. Et je finis par comprendre qu'en fait, dans ma vie, il y a un espèce de truc qui est en train de partir en flou complet. Et qu'à ce moment-là, le seul ancrage net que j'ai, c'est mes parents. C'est un ancrage fixe. Ouais, c'est une encre. Je peux m'accrocher dessus parce que je sais que je pourrais jamais vaciller. En parallèle de ça, le compagnon que j'ai rencontré, personne ne peut l'accepter dans mon entourage. Mes amis ne l'aiment pas, ma famille ne l'aime pas. Enfin, voilà, c'est un calvaire. Mais moi, à ce moment-là, je fais non, mais bon, quand même, je suis amoureux et tout, machin. Enfin, bref. Premier truc qui se passe, c'est que donc je continue à appeler mes parents tout le temps. Et en parallèle, donc, je veux quand même construire ma vie avec ce type. Je veux quitter mon appartement, je veux aller habiter chez lui, etc. Il est propriétaire de son appart et tout. Donc, je me dis, bah, c'est l'opportunité, je quitte mon appart, je fais ma vie, je construis autre chose. Donc, on prévoit d'emménager ensemble, que j'emménage chez lui. Puis au bout d'un mois, j'ai ma maman au téléphone et je sais plus de quoi on parle de bêtises, etc. Et à un moment, elle me dit, tu devrais aller voir quelqu'un en fait pour te faire aider parce que là, c'est pas possible. Et au moment où elle me dit ça, en fait, pour donner une image, c'est comme si sous le canapé ou sous un placard, j'avais une boîte qui était sortie, qui s'était ouverte et j'avais une espèce de nuage qui avait pris toute la place de la pièce dans ma tête. La pièce, c'est ma tête. Et donc, le nuage prend toute la place. Mmh. Fin de la conversation, on est un jeudi soir ou vendredi soir. Hors de question, je reprends la boîte, je remets tout, je remets ça sous le canapé. Mmh. Et sauf que la boîte, le lendemain, elle est ressortie. Et que le lendemain, j'allais chez mon compagnon de l'époque et que lui, il préparait ma venue. J'arrive chez lui, il m'explique qu'il est super content, que c'est génial, que ça va être un bonheur pour lui, etc. Et il matérialise le fait qu'il a changé les draps de son lit et qu'il a mis des draps qui ressemblent un peu à un feu d'artifice. Et il me fait « Ah, oh, c'est un feu d'artifice, tu vas arriver chez moi et tout, ça va être génial ». Moi, la réponse que je lui ai faite, c'est bah, je te quitte.
Tu savais voilà. Que.
Je me sens dans un truc qui est pas bon, en fait. Et la veille au soir.
La fameuse boîte, c'est l'angoisse, hein.
Ouais, et en fait, la veille au soir, une fois que la boîte s'est ouverte, je vois ma meilleure amie pour aller prendre un verre en terrasse, et je lui en parle. Et elle s'arrête un moment, elle me dit, mais tu te rends compte de ce que tu me dis ? Oui, oui, je me rends compte. Puis je continue à marcher, puis tout me dit, bah, c'est bon, enfin, il y a un problème, enfin, c'est bon, je maîtrise, en fait.
Non.
Erreur.
Ouais. Donc tu quittes ce mec ?
Pas tout de suite.
Okay.
En fait, ce mec, quand la boîte implose, je lui dis écoute, là c'est pas possible. Je dois prendre du temps, je dois comprendre ce qui se passe parce que là je comprends pas en fait ce qui se passe. Et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe.
Okay.
Et je trouve une thérapeute. Ça me donnera un premier pied dedans. Bon, il s'avère que c'est resté ma thérapeute et que 5 ans après je la vois encore. Et je dis à ce mec écoute, laisse-moi 15 jours, 3 semaines. j'ai besoin de commencer quelque chose et de comprendre en fait ce qui se passe. Mmh. Je comprends pas ce qui se passe. Je commence ma thérapie. Premier jour, ma thérapeute, je revois encore, quand je lui racontais tout ce que j'avais dans la tête le premier jour, on termine la première séance d'une heure, elle me dit, bon, en fait, là, tu viens de me raconter des trucs, j'ai l'impression d'être monté dans un 4x4 et que tu viens de me faire prendre les dunes du Sahara à vitesse grand V, quoi. Au bout de 3 semaines, 1 mois, ce type, il me rappelle, et puis il me dit, bon, bah, on fait quoi? Je fais, bon, on s'arrête. Parce qu'en fait, je sais pas où j'en suis dans ma vie, je sais pas ce que je veux, je sais pas, en fait. Et j'ai besoin de savoir. Mais seul. Je peux plus être en couple.
Bah, c'est un super service que tu t'es rendu là. Hein. Donc enfin, tu le quittes.
Ouais, et moi, par contre, je suis dans un truc.
Tu te dis quoi, toi? C'est la crise de la trentaine? C'est.
Pour moi, il n'y a pas de crise de la trentaine. En fait, pour moi, c'est. J'ai accumulé trop de choses depuis ma naissance. Mm-hmm. En fait, je porte trop de choses. C'est-à-dire que je suis un enfant qui n'est pas désiré. Quand ma mère tombe enceinte, mon père ne veut pas que je sois là. Il s'occupe pas de la naissance du tout, mmh. Il rejette complètement le fait que je sois là. Ma mère apprend qu'elle est enceinte, elle apprend que je suis un garçon, elle ne lui dit pas. La seule personne qui sera au courant que ma maman est enceinte et que je suis un garçon, c'est ma grand-mère paternelle. Et quand ma grand-mère paternelle était une femme, monde paysan, femme, une petite bonne femme mais qui a du caractère, on aurait pu lui dire n'importe quoi, elle aurait jamais craché le morceau. Mmh. Entre ça, je suis le dernier. Quand je suis étudiant, je suis le seul à faire des études parce que ma sœur aînée plante ses études, la deuxième fait des études mais ne s'en sert pas. Mes parents me mettent sur le dos le fait que t'es doué à l'école, donc fais des études. Mmh. Donc moi je deviens comptable parce que dans ma tête, c'est faut que je fasse un métier qui soit peu sérieux en fait. Mmh. Et je porte tout ça. Et donc, arrivé à 32 ans, en fait, ma tête a fait...
Et puis, ton homosexualité?
Oui, en fait, je le vis bien, mais je pense que je le vis pas si bien que ça à l'époque. Et donc, bah, tout ça, mis bout à bout, fait que, bon, bah, à un moment, on va peut-être un petit peu arrêter.
Mettre les choses à plat. Voilà.
Et puis, réfléchir.
Prendre un petit peu de hauteur.
Exactement. Donc, ça a généré que...
Moi, si je puis me permettre, PH, hein, depuis tout ce que tu me racontes, là, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, mais après, tu l'as verbalisé un peu différemment, c'est qu'en fait, tu n'as jamais pris de décision par toi-même.
Ce que je comprends dans ma thérapie, c'est que dans ma vie, je me laisse toujours porter par quelqu'un.
Ouais. C'est-à-dire les désirs... Parce que dans les relations DS, ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait... C'est le dominant qui va faire ce que lui dit le soumis, entre oui. guillemets, dans le contrat. Oui. Et après, évidemment, il y a ce jeu de domination-soumission. Et c'est vrai que voilà, t'as effectué les désirs et les fantasmes de ces mecs. T'as été un peu porté par, effectivement, les désirs de tes parents pour les études, etc. etc. Et ouais, au bout d'un moment, qu'est-ce que toi, tu veux? Qui es-tu? On arrive à peu près à aujourd'hui ou au moment où tu rencontres ton compagnon, à peu près?
L'avantage de ma thérapie, c'est qu'en fait, dans 8 mois, je change de boulot et je trouve un mec. C'est-à-dire que j'arrive dans mon ancien boulot et je trouve mon nouveau compagnon.
Comment vous rencontrez?
Planète Roméo, toujours.
Ah oui. Ok.
Sauf que pour la première fois que je rencontre quelqu'un, on discute pendant 1 mois et demi, je crois. Et il me fait rire. Il me parle de tout, sauf de sexe.
Okay.
Il me parle de ses neveux nièces avec qui il va être en vacances. Il m'envoie des photos de lui en train de faire des trucs à Center Park, etc. Enfin bref. Au bout d'un mois et demi, je lui dis, bon, écoute, t'es mignon. Bon, on va peut-être quand même aussi un petit peu se rencontrer. Dans toutes mes anciennes relations, c'était toujours premier soir, on couche. Mm-hmm. Bah, pas lui. Et en fait, c'est la première personne dans ma vie, quand on s'est mis ensemble, mm-hmm. c'est le premier homme qui, quand il me regarde, mm-hmm. encore aujourd'hui, je suis ému quand je le dis, mais en fait, je vois de l'amour dans ses yeux, mais simple. Mmh. Et c'est le premier qui me renvoie ça dans ma vie, mmh. contrairement aux autres qui, en fait, m'ont jamais renvoyé ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont renvoyé, le premier m'a renvoyé de l'amour, mais le premier m'a mis dans une espèce de cage dorée. En gros, c'était...
Oui, c'était la jeunesse.
C'est ça. Mmh. Les autres, c'était d'autres choses. Lui, c'est juste...
C'est très sain.
C'est ça. Comme tous ceux d'avant, ça avait été des canards boiteux que mes parents n'avaient pas aimé, que mes amis n'avaient pas aimé, etc. Ah bah au moment où je le présente à tout le monde, alors mais j'ai un trouillomètre, mais alors au maximum. Quand je le présente à ma meilleure amie la première fois, elle le surkiffe. Mais à un moment, elle vient me voir, elle me fait « Toi, t'es pas tranquille ?» Non, parce que comment te dire, celui que je t'ai présenté avant, tu l'as pas aimé, tu me l'as un peu catapulté de manière sauvage, donc là, non.
Ouais. C'est parce que tu tenais beaucoup.
Oui, quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, je me suis dit, je peux pas enfin, pour moi, je peux pas rencontrer quelqu'un de mieux que lui.
D'accord.
Il n'y a pas plus aimant, il n'y a pas plus attentionné, il n'y a pas plus... C'est même des fois moi qui le calme, en fait, parce qu'il est tellement attentionné, des fois je lui fais « Stop, on n'a pas le même niveau de romantisme, on n'a pas le même niveau de démonstration, donc doucement, calmement, on y va. » C'était compliqué.
De trouver votre rythme.
De trouver le rythme, de se comprendre, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'osait pas se dire l'un et l'autre, parce qu'on a tous les deux traversé des histoires très compliquées par le passé. Et quand on s'est rencontrés, en fait, c'était bah, on est maintenant, puis le passé, on s'en fout. Quelques temps, quand même, là, ça va faire 4 ans qu'on est quand même tous les deux. Mmh. Au bout d'un moment, bah, ok, d'accord, sauf que bah, moi, je te, au fait, il y a un truc que je connais pas, en fait. Puis toi non plus, il y a un truc que tu connais pas. Et donc, il y a des réactions que j'ai pu avoir où il s'est dit, mais pourquoi tu réagis comme ça ? Il y a des choses que je comprenais pas, mais je cherchais pas. J'étais pas encore dans la. Dans le fait de choisir ma vie. Le fait de choisir ma vie, je le fais depuis 1 an et demi.
C'est bien.
Ça, quand tu parlais tout à l'heure de j'étais porté jusqu'à il y a 1 an et demi.
Oui, c'est ce que tu me disais quand, avant qu'on commence à enregistrer. T'as lâché ton job qui était dans une boîte que t'adores, mais le job, tu voulais plus le faire. Mmh. T'as déménagé, mmh. T'es reparti à Nantes. Ouais. Donc t'as pris ta vie en main.
Oui. Et je l'ai matérialisé parce que je l'ai sur les bras.
Bah, c'est ce que je te demandais. Ouais, t'as des tatouages assez incroyables.
Oui, en fait, j'en ai un là au-dessus.
Alors attends, montre-moi. Attends. Donc là, le premier monsieur que je vois.
Ah, alors le premier, c'est le dernier en fait que tu vois. Le dernier que tu vois, c'est celui qui est en rouge ici, c'est un panda.
Ah, c'est un panda.
C'est un panda.
Mais bien sûr, qui fait du kung-fu.
Oui, c'est et ça c'est un hommage à mon compagnon. Il y a beaucoup de choses dans ce tatouage. Il y a celui-ci qui est le dernier ouais. fait en l'occurrence. Ici,
c'est trois visages de profil.
Oui.
On dirait un peu les années 30.
Ouais. Bon, il y a un truc très très ésotérique derrière,
c'est
donc
très joli.
Voilà, que je n'expliquerai pas au micro,
d'accord.
Mais
il est très joli. Et celui, l'autre, vas-y.
Au-dessus.
Alors monte ton, vas-y, pose ton micro. Le monsieur enlève son t-shirt.
Oui, parce qu'il y en a certains qui sont dans des trucs particuliers. Ça, c'est le premier que j'ai fait.
Ah oui, donc là, c'est pareil, c'est un personnage.
En fait, c'est le premier, c'est une guerrière.
Les traits sont d'une finesse.
Ils ont tous été faits à Paris. C'est une guerrière qui tient une lance, mais qui est en position d'attente.
Mais japonaise, toujours.
Toujours japonaise, ouais. Et en fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, quand je lui ai raconté mes tatouages, j'ai quelqu'un qui m'a dit, bah, c'est drôle parce qu'en fait, t'as le panda qui est sur l'avant-bras, il est en position d'attaque.
Ouais.
Et la demoiselle derrière, elle est en position de défense et d'attente. Et ouais. En fait, elle te protège et lui, il t'attaque. Il attaque si on te fait du mal.
Et sur l'autre bras ?
Sur l'autre bras...
c'est trop mignon.
Oui, j'ai un petit chat. Alors, pour les fans des studios Ghibli, voilà, c'est un petit chat qui est dans un dessin animé des studios Ghibli.
Il se met tout nu. Alors, ah oui, d'accord. Effectivement, voilà. D'accord. Donc là, c'est un homme qui est attaché.
C'est ça.
C'est du shibari.
C'est ça.
Donc le monsieur est en slip hein, quand même.
Oui.
Mais là, c'est un homme qui est donc à genoux, le torse tendu, le visage un peu les yeux clos et qui a toutes des cordes autour de son torse et de ses bras.
Exactement.
Ok.
Et en fait, ça, c'est, dans ma vie, c'est le jour où j'ai pris la décision de me faire tatouer. C'est la première fois de ma vie où j'ai pris une décision pour moi, sans demander conseil à personne, sans demander d'avis de personne, pour moi, uniquement pour moi et pour personne d'autre. Et depuis... Bah en fait, ça va mieux dans ma tête et dans ma vie.
Comment ça se passe la sexualité avec ton compagnon actuel ?
Mieux aujourd'hui.
Ouais.
Ça a été compliqué parce que comme on a oublié de se parler pendant les premières années, bah ouais. Y avait un truc qui faisait qu'on sentait bien, je pense, l'un et l'autre, qu'il y a un truc qui collait pas. Mmh. Et depuis qu'on a mis carte sur table et qu'on est beaucoup plus vrai l'un avec l'autre, c'est l'extase.
Trop bien.
Mais vraiment, et en plus, c'est... Il me redonne envie d'aller vers des choses où je me disais non, j'ai plus envie. Quoi.
Notamment
de...
BDSM ?
Non, pas du tout.
Ah oui, non, tu parlais effectivement de cette fameuse versatilité.
C'est ça, plus être dans la versatilité parce que pour l'instant, on est dans un seul schéma, mais je sens bien que ça peut être ennuyeux. Enfin,
une routine,
voilà.
Quoi.
Une routine que les plans à la papa, où on fait toujours la même chose, un petit missionnaire avant de dormir, ça peut être pénible. Donc non, on peut tester autre chose en fait.
Okay,
voilà. D'un côté comme de l'autre.
Qu'est-ce que tu te souhaites à toi, PH ?
De continuer à me découvrir, continuer de cheminer avec mon compagnon parce que je pense que c'est le... Je dirais pas qu'il est pas parfait, mais il correspond à ce que je suis et à qui j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et je pense que je retrouverai jamais quelqu'un avec qui je peux être qui je suis comme ça. Il y aura forcément un truc je m'investirai pas autant et là je m'investis vraiment avec lui de plus en plus et j'ai pas envie que ça s'arrête quoi. Quelqu'un qui aime la vie simplement et il m'apprend à aimer la vie. Mais je pense qu'on s'est trouvés tous les deux parce qu'on était deux cassés qui avions commencé à nous réparer. Mmh. On se répare tous les deux je pense au fur et à mesure et on se fait beaucoup de bien et j'ai juste envie que ça se poursuive en fait.
Ce sera quoi le mot de la fin, PH ?
Prenez le temps. De vous découvrir, d'expérimenter des choses, de vous tromper. Tenter de toute façon, il peut se passer quoi de pire que de se tromper ? Bah, au pire des cas, on tombe, on se fait mal, on s'égratigne le genou, on se pète le nez. Au pire des cas, bah, c'est pas grave en fait. Faut tenter des choses. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on trouve la bonne personne, Eh ben, faut juste se faire confiance.
Je te remercie.
Merci à toi.
Merci à PH pour sa bonne humeur, pour ce moment partagé avec lui. C'était vraiment un bon moment et c'est vrai que les interviews en face à face sont toujours vraiment des chouettes moments. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des avis positifs et des pluies d'étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à vous que le podcast gagne en visibilité. Et c'est vrai que bah déjà, c'est super touchant de vous lire. Et surtout, je vous assure que ça aide beaucoup. Donc, si vous avez 2 minutes, il n'y a pas besoin d'avoir un compte forcément Apple. En 2 minutes, vous pouvez laisser un avis. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de On the Verge.